La régie Zabaline.
La comment?
La régie Zabaline.
C'est la régie Zabaline.
Merci.
Allô, bonjour Julien.
Oui, salut Ben.
Salut, je te rappelle dans le cadre de l'entretien qu'on avait prévu. Comme tu le sais, j'ai lancé sur Facebook un appel. J'ai demandé à des gens qui souhaitaient prendre la parole de prendre la parole. Tu as répondu présent.
Oui.
Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter un peu ton profil?
Alors, j'ai 42 ans, je suis marié avec deux enfants. Professionnellement, je suis chef d'entreprise d'une toute petite entreprise, de ce qu'on appelle une TPE, puisqu'on n'est que deux, bien qu'on travaille avec d'autres gens, mais bon, on n'est que deux. Je suis ce qu'on appelle classiquement un néo-rural. Je vis à la campagne, avec une bonne connexion Internet, ça marche bien. Que te dire d'autre? Et puis, parce qu'évidemment, c'est pour ouvrir sur ça, j'imagine, en ce moment électif. Je suis très surpris et intéressé et par la dynamique de la France insoumise. Voilà en quelques mots.
et pour être complet, je vais ajouter que notre rapport n'est pas complètement neutre. On a un rapport, une amitié, une fraternité particulière depuis des années qui s'étale à distance. Donc, pour moi, c'est un peu particulier comme exercice, puisque nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre.
Absolument. Mais pour t'aider dans cet exercice, parmi notre affection, il y a le fait qu'on sait très bien, et c'est ça, une partie de ça qui l'a construit, on sait très bien qu'au moment où il faut parler, on parle. Donc, soyons tranquilles dans cet exercice, parlons comme on a toujours parlé, et interroge-moi comme tu as envie de le faire, et je répondrai comme j'ai envie de le faire, et voilà, je crois pas que ça court-circuite. En plus de ça, on fait partie des gens qui savent que de toute façon, tu ne t'absous jamais de tes émotions et de tes rapports, donc ça existe, c'est là, voilà, mais c'est bien de l'avoir dit, ouais.
Je pense que c'était nécessaire de le dire. Alors je t'explique ma démarche, l'idée est on vit dans un monde d'experts qui passent leur temps à cadrer les choses, à poser des questions, qui essayent de resserrer le goulot. Donc la question journalistique aujourd'hui, elle a plus qu'une seule fonction finalement, c'est de cadrer, de nous informer, de nous former à quelque chose. Moi aujourd'hui, j'essaye de poursuivre un travail de poète qui est un travail de décadrage. Donc j'ai appelé tout le monde à prendre la parole face à une seule et unique question, une question ouverte. Donc voilà ma question, je te dis la même chose qu'aux autres. S'il y a un blanc, si tu souhaites le gommer, on pourra le gommer parce que ça peut être un peu surprenant, comme toutes les nouveautés. Donc voilà ma question, attention, ça va être très bref. Voilà le graal philosophique et poétique que je te propose. Pourquoi ?
Pourquoi ? waouh. Pourquoi ? Alors, toute première chose qui me vient à l'esprit, pourquoi, pour moi, c'est une notion qui est indissociable de comment. Ça veut dire que, en fait, pourquoi existe, comment existe, et ce qui m'intéresse vraiment personnellement, c'est la relation du pourquoi au comment et inversement. Ce qui va me permettre d'ouvrir sur le fait que si je réponds sur le pourquoi, il faut que ça ait, pour que ça ait un sens, il faut répondre sur le, faut donner ses idées, ses pistes sur le comment.
J'imagine.
Pourquoi ? Alors, si je dois dire vite, prendre des points comme ça, d'abord parce qu'ils sont neufs à détenir autant que 3 milliards, aujourd'hui en 2017. Ça, c'est un premier pourquoi. Si j'y réponds par des parce que, tu vois, on va ouvrir encore plus ensuite. Ils sont neufs à détenir autant que 3 milliards. 70% des espèces sauvages connues ont disparu au cours du XXe siècle. Ça, c'est un gros pourquoi ? Parce que ça. et parce que, j'ai envie de dire, les déséquilibres et les désordres mondiaux sont juste immenses, quoi. Donc, pourquoi réfléchir le monde ? Si je dois piocher trois trucs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, pour moi, c'est de l'ordre du constat. Ça veut dire que après, derrière ce pourquoi, on va pouvoir mettre des interprétations, des choses plus, et, on va ouvrir plus sur les champs socio-philosophiques personnels. Mais là, ce que je viens de dire, si tu veux, n'importe, même François Fillon peut pas dire l'inverse.
Oui, bien sûr.
Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont neufs à avoir autant de 3 milliards, 70% des espèces ont disparu, et alors mon troisième point, il glisse sur l'interprétation, mais les désordres mondiaux sont immenses.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on part tous du même constat, qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire la problématique de l'écosystème, la problématique de la répartition des richesses. Alors, face à ce constat, on peut détourner le regard, on peut prendre à droite, on peut prendre à gauche, on peut aller tout droit, on peut aller en arrière. Pourquoi tu choisis aujourd'hui la direction de ce qu'on appelle la France insoumise ?
Alors, je vais répondre, ben oui, donc c'est toujours un pourquoi, et c'est très bien, parce que ça garde une cohérence, et ce que j'ai envie de dire, c'est complémentaire avec les trois premiers points de mon premier pourquoi, parce que je pense qu'on est au bout du bout d'une logique qui conduit à la catastrophe. Parce que je pense que cette logique qui conduit à la catastrophe est explicitement ou implicitement portée par tous les autres, presque tous les autres candidats. On discutera à la marge de l'extrême gauche ouvrière qui est intéressante, de l'état du Parti Socialiste, mais en tout cas, cette logique-là catastrophique, à mon sens, hein, est portée par tous les autres. Parce que on est extrêmement nombreux, je pense, ça c'est une perception, hein. Tout ce que je dis là, on est passé dans l'ordre de la perception, on n'est plus dans le constat. Je pense qu'on est très nombreux à savoir ça, qu'on est au bout du bout de cette logique. Et dernier élément, enfin dernier, pas, évidemment pas dernier, hein, ce qui me vient à l'esprit là, parce que, contre toute attente, ça, vraiment, je le dis en préalable, contre toute attente, je pense qu'on est mûr pour ce que je préfère appeler la métamorphose. Le changement a été violé par François Hollande, donc on oublie le mot. La transformation, c'est bien, et la métamorphose, même si ça fait pompeux, tu me connais, moi j'en ai rien à foutre de faire pompeux si je défends le mot, j'aime les mots. Voilà, je pense qu'on est mûr pour la métamorphose. Ça veut dire que, de manière extraordinaire, les conditions sont réunies pour les chances d'une métamorphose, et en plus, par la voie pacifique. Aussi incroyable que ça puisse paraître, et j'en viens à la France insoumise, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que, du coup, j'introduis aussi un peu des choses sur d'où je viens. Politiquement, je suis un abstentionniste politique de très longue date. Ça veut dire que j'ai choisi l'abstention politique sous Jospin, avant que Jospin soit viré du deuxième tour de 2002, puisque mon abstention politique a consisté à dire, avant ces élections de 2002, je ne prends pas ma carte d'électeur. Dans la mesure où le vote blanc, je ne fais pas toute la mécanique, mais comme le vote blanc n'est pas reconnu, ça n'a pas de sens ni de s'abstenir, ni de voter blanc, bien sûr. Je m'étais dit, à cette époque-là, je défendais l'idée que si on est 40 millions à ne plus s'inscrire sur les listes, peut-être qu'ils vont entendre quelque chose. Bon, évidemment, c'était une utopie, ça n'a pas marché, puis il n'y avait pas d'offre politique. Donc je suis un abstentionniste politique qui vient de loin. Évidemment, ultra dégoûté de la gauche. J'étais revenu après le désastre sarkozyste. J'ai voté Hollande en 2012. J'ai vite déchiré ma carte d'électeur derrière et eu très très mal. Voilà. Et à cette époque-là, Mélenchon était trop dans un héritage directement communiste. Alors c'est long parce que je peux pas tout développer, mais ce point-là était important pour moi. Et contre toute attente, il est en train de se passer, ce que je perçois, et manifestement je ne suis pas le seul, il est en train de se passer que, par ce biais-là, s'appuyant sur ce mec, c'est-à-dire se servant de lui, ce qu'oublient beaucoup trop les gens, évidemment qu'il a un ego, évidemment qu'il se sert, un truc évidemment qu'il va être élu, bon. Mais se servant de lui, se construit, alors qu'on a vu les difficultés de Syriza, les difficultés de Podemos, on a vu un prémisse avec Nuit Debout, et puis on se disait comment, qu'est-ce que ça peut donner. Et putain, c'est construit en un an, dans l'ombre, un truc qui, d'abord, m'a interpellé, et puis m'a incité à aller creuser. Et en creusant, s'est révélé extrêmement solide. Mais vraiment, pour moi, hein, bien
donc
sûr.
Donc toi qui es un chef d'entreprise, le mec a travaillé.
Ouais, tout à fait. Ça s'est révélé extrêmement solide, parce que je suis chef d'entreprise, ça me situe socialement. Dans une CSP, ce qu'on appelle les CSP, les catégories socio-professionnelles. Ok. Pour dire, je vais te dire, moi, j'ai même aucun problème avec ça. Je fais 80 à 90 000 euros de chiffre par an et je fais zéro de bénéfice. Donc, je ne paye pas l'impôt sur les sociétés, je fais zéro de bénéfice. J'ai des charges. Et sur ça, moi, en tant que chef d'entreprise, travailleur indépendant, non salarié, donc au RSI, je me paye, moi, 1500 euros et mon épouse 1500 euros, donc on gagne 3000 euros pour une famille de 4 avec 2 enfants. Donc je pense qu'on fait partie des gens qui s'en sortent, mais bien évidemment, crois-moi que je ne fais pas partie des gens qui vivent bien. Même si, bon, on peut discuter très longtemps de ça, je vis évidemment bien.
Mais ce qui veut dire finalement que s'en sortir ne signifie pas forcément rentrer dans sa vie.
Mais en plus, si tu veux, c'est pas tellement la question, parce qu'on parle de ça, c'est trop important comme débat, je peux pas fixer de curseur, enfin, c'est une échelle sur laquelle chacun fixe son curseur, qu'est-ce que c'est de s'en sortir et d'être bien dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà, justement, pour transcender un peu ça, au-delà de ma position et de comment je suis moi, les autres enjeux écologiques, politiques, sociaux, démocratiques, organisationnels, sont évidemment financiers, économiques, sont tellement importants, tellement majeurs, que ma position à moi, quand bien même je devrais payer plus d'impôts, je m'en fous complètement. Si tu veux, ça n'a pas d'impact. J'ai 42 berges, je vais mourir dans 30 ou 40 ans, j'entame ma deuxième partie, mais j'ai des enfants. Alors, c'est toi, hein, Ben, qui a écrit il n'y a pas très longtemps cette phrase magnifique du poète qui nous dit en une phrase quelque chose, avant j'étais abstentionniste, maintenant j'ai des gosses.
C'est vrai.
Moi j'ai des gosses, avant j'étais abstentionniste politique et aujourd'hui il y a ce mouvement qui est là. Donc clairement, et après on peut rentrer sur des tas de détails, si c'est intéressant, si c'est ça que tu veux, si les gens veulent le faire. Moi je dis, il y a le programme et il faut regarder, chacun discute et tout. Mais au-delà du fait de qu'est-ce qui va se passer pour moi en tant que chef d'entreprise, il y a un mouvement politique qui prend conscience de tous les grands enjeux dont on a parlé. Alors si je dois les hiérarchiser, parce que on peut, pour moi personnellement, les deux enjeux prioritaire, parce que c'est d'eux que découle le traitement de tous les autres, c'est l'enjeu démocratique du système politique, de sa refondation et du passage à autre chose, donc évidemment d'une 6ème République qui m'intéresse depuis longtemps. Et le deuxième enjeu directement lié, c'est à partir de là est rendu possible, si on fait ça, à partir de là est rendu possible la réorganisation des circuits financiers, qui est le deuxième enjeu majeur. Et à partir de là sont rendus possibles les politiques écologiques, qui sont le troisième enjeu majeur, et tout ça se fait dans le cadre de politiques économiques qui sont crédibles. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans la France insoumise, et voilà pourquoi je suis passé de l'abstention au vote Mélenchon, quoi.
Alors ça me semble très clair, et tu as évoqué avant la métamorphose. La métamorphose, c'est un état de transition, c'est une action de transition, mais qui suppose un avant et un après. Donc l'avant, ça veut dire que on était des chrysalides enfermés dans notre cocon.
Oui, on peut voir comme ça si on pousse la métaphore de la métamorphose, bien sûr.
Alors
sachant que pour dire juste, si on se sert de ce concept, il faut conceptualiser les métamorphoses en boucle et récursives permanentes. Je veux dire par là que personne ne croit, et c'est pour ça que j'ai parlé d'anticommunisme, je ne crois pas au grand soir. J'appelle pas à suivre un gourou, j'appelle pas à l'application d'une idéologie, d'une doctrine, et à l'ultime transformation qui va faire qu'on va être heureux. Enfin, tu vois, je crois même au contraire que pour qu'on réussisse, il est très 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 important qu'on soit attentif à tout ce qui a pu se passer dans différents secteurs et stades de l'histoire, et être très attentif. Donc oui, bien sûr, métamorphose, je le continue, ce concept. Donc oui, on était dans un cocon, mais rien ne nous dit qu'on ne va pas tomber dans un autre. Et même, il est possible qu'on tombe dans un autre. À nous de le transformer. On est des êtres humains qui avons notre conscience pour faire des métamorphoses successives. C'est juste énorme.
C'est juste notre biologie, c'est ce que tu es en train de dire.
Mais c'est notre particularité de... Alors pardon, Ben, si je vais vers des trucs qui pourraient paraître pompeux à certains des gens qui nous écouteront, mais je m'en fous. Et je vais essayer de choisir des mots que j'espère explicites. C'est autant dans notre biologie que, en fait, dans ce qu'on est réellement, pour moi, c'est-à-dire que nous, on est une trinité. On est biologie, c'est-à-dire individu, on est espèce, c'est-à-dire collectif, et on est société, c'est-à-dire collectif psychologique. Humain, il n'y a pas que les humains qui font des sociétés, bien entendu, mais on fait société. Je pense que chacun de ces termes est indissociable quand on parle des êtres humains. Si quelqu'un te dit l'être humain n'est que de la biologie, tu dis ben non, mon gars, je suis désolé, moi je suis dans une société, il y a des normes, il y a des concepts. Si quelqu'un te dit tu n'es que normes et concepts, tu dis ben non, tu vois, je suis désolé, j'ai des besoins physiques, si je mange pas, je meurs. Et donc on est dans, tu vois, dans cette relation-là. Donc oui, biologiquement, une sorte de chrysalide, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment cette cette utilisation du concept de la métamorphose sur chacun de ces plans-là, quoi.
Alors, si on poursuit la métaphore, parce que tu sais que j'ai le goût des métaphores, si on était enfermé dans un cocon, il faut à la larve trouver l'énergie suffisante pour déchirer le cocon. Qu'est-ce qui te meut aujourd'hui, ton espoir ou ton désespoir ?
J'adore cette question. L'équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux.
C'est encore possible, l'équilibre ?
Pardon ?
C'est encore possible, l'équilibre ?
Ah oui, bien sûr, mais ça dépend de nous. Ça, c'est chacun. Si tu veux, espoir et désespoir sont les on pourrait les matérialiser comme ça, sont les deux bouts d'une règle graduée sur laquelle tu te situes. Et donc, ce qui me meut, c'est le fait que mon curseur, il n'est pas fixe, qu'il va bouger de l'un à l'autre, et c'est le mouvement. Donc, ce qui me meut, c'est les deux. Parce que, à des moments, je pense qu'il faut avoir de l'espoir, et aussi naïf que ça puisse paraître, tant pis, naïf est le poète et c'est magnifique. Oui, il y a un peu d'espoir là. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas. Tu vois, j'ai envie de vite fait répondre à toute cette masse d'arguments qui nous fatiguent et qui sont faciles, pardon, hein, mais bon, auxquels on peut répondre facilement. Non, on ne va pas vers le grand soir. Non, ça. Je dis que oui, là, il y a un peu d'espoir. Donc il y a de l'espoir. Mais à un moment, le désespoir te fait, et c'est notamment toi qui, dans certaines conversations, me l'a montré très clairement, te fait trouver des voies alternatives, trouver des énergies, gueuler plus fort qu'il ne faudrait pour rétablir le curseur, tu vois. Donc c'est vraiment une mécanique entre les deux. Et je mentionnerai, parce que et elle vient de toi, là, c'est toi qui, lors d'un échange, enfin tu l'avais mis sur Facebook, mais je peux pas raconter toute la métaphore, mais tu avais raconté une petite métaphore du fait que, celui qui est du désespoir, il, mine de rien, il continue autant à avancer que les autres, quoi. Donc, il y a basta avec le fait que le désespoir serait qu'un truc négatif. Et voilà, sur les signes du désespoir, il y a quelque chose, quoi.
Et puisqu'on a dépassé le cadre politique et qu'on aborde un peu la biologie, la philosophie, enfin, voilà, je l'ai dit, on se connaît, on a des échanges, on sait qu'on est dans une espèce de métaphysique, pataphysique, tu l'appelleras comme tu veux. Est-ce que... les deux peut-être, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un animal en colère ?
Ah ben oui, moi je suis un animal en colère depuis ma naissance, donc oui, bien sûr. Ce que je trouve, c'est une petite confidence personnelle, ce que je trouve extrêmement rigolo, c'est que tu peux pas savoir le nombre de gens que j'ai croisés dans ma vie qui m'ont dit « oui, mais c'est pas grave, tu vas te calmer ». Or, ma colère grandit, si tu veux, la colère, ça suffit pas de dire tout seul la colère, on le sait très bien, la colère, ça peut être sain, ça peut être malsain, ça dépend comment c'est tourné, ça peut être autodestructeur, et moi j'ai pas du tout de colère autodestructrice, pas du tout, je suis ce qu'on appelle un constructiviste, je construis dans ma vie, mais bien entendu, pour moi, la colère c'est un moteur, et moi par exemple, il y a un domaine dans lequel ma colère se canalise, s'exprime et se jubile, c'est la musique. Voilà, moi je suis amateur de beaucoup de musique, mais j'ai un style de prédilection qui est le métal, qui est un style qui canalise, et c'est pourtant, ce sont pas des gens qui sont que en colère, et ce sont des gens qui sont doux, qui sont sympas, enfin bon, on rentre pas dans le détail de la population du Hellfest, mais moi j'écoute du métal depuis très 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 longtemps, autant que du Bach par exemple, quoi, et oui, la colère est un élément qui fait partie de nos vies. Je pense même que c'est une grave erreur et une grave illusion de croire que ça n'existe jamais, qu'on peut le mettre sous le tapis, que moi j'aime bien qu'on fasse face j'adore ça, moi, personnellement, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, les autres, hein, mais moi j'aime bien faire face à mes émotions, essayer de les voir, de les comprendre, et donc moi j'admets parfaitement, je vis parfaitement bien avec le fait que, oui, je suis en colère contre les neuf qui possèdent autant que 3 milliards. Oui, je suis en colère quand on se fout de ma gueule politiquement et qu'on me prend pour un poisson rouge. Oui, et je le dis fortement. Je fais partie des gens qui l'expriment, je fais partie des gens qui disent « Attention, ne confondez pas le dogmatisme ou le grand n'importe quoi avec une forme de radicalité. » À un moment, je dis avec colère et j'assume que ça me provoque de la colère. Qu'il y ait 2000, on va partir de repartir de là, qu'il y ait 2500 mecs qui meurent en France aujourd'hui, qu'il y ait 9 millions de pauvres dans la 5e puissance économique du monde, ça me fout en colère.
Et cette colère, si demain, donc demain, on est à la veille du premier tour. Donc demain, on aura les résultats. Aux alentours, ça va commencer à discuter vers 17h30, 18h, avec les choses qui viennent de l'étranger. Si le résultat t'effraie, t'inquiète, ou elle va aller où, cette colère ?
Eh ben, c'est compliqué. Enfin, les configurations sont tellement complexes. Là, tout le monde le sait. Il y a si tu fais une configuration possible entre tous les quatre là. Si Mélenchon est au deuxième tour, ben le curseur montera d'un degré vers l'espoir. Et après, en fonction de qui est en face, ma colère pourra s'exprimer de différentes manières. Moi, je vais être clair. Moi, je pense que le plus dangereux pour le système, enfin, le plus dangereux pour nous. Parce que nous sommes le système aussi, enfin pas le système qu'on dénonce là, mais bon, il faudrait faire des tas de développements sur le système. Bref, du coup j'ai perdu mon fil, pardon, je crois que je disais que
Je crois que comme je te connais un petit peu, je peux prendre la raccourci. Pour toi, le danger, aujourd'hui, il est représenté par un homme.
Le plus dangereux pour nous, je pense moi que le plus dangereux pour nous, aujourd'hui, dans l'ordre, c'est Fillon, puis c'est probablement Macron, pas loin. Et puis, in fine, effectivement, bien entendu, c'est Marine Le Pen. Mais on sera dans une configuration du pire qui est entre trois mots, choisissez le moindre. Je suis intimement persuadé que Fillon, c'est le pire du pire parce qu'il chie tellement ouvertement sur ce qui fait le moment démocratique. Comment peut-on imaginer ? Alors, je le dis en passant, j'en profite de l'audience que tu m'offres, mais je le monterai, j'y participerai activement en tant que citoyen. Si Fillon venait à être élu, nous organiserons, je ferai partie des gens qui activement chercheront à organiser la désobéissance citoyenne et à exprimer partout que nous refusons de reconnaître l'autorité de l'État. Je refuse de vivre en 2017 en tant que citoyen éclairé tel que je suis dans un État qui permet à quelqu'un... Attention, je ne vais pas donner d'opinion. Je vous donne des faits. Qui permet à quelqu'un qui est mis en examen sur la base d'indices graves et concordants pour avoir probablement détourné 1 million d'euros des caisses publiques. Je n'accepterai pas que l'État soit dirigé par quelqu'un comme ça. Et l'ensemble des représentants de l'État, à savoir le préfet, les administrations fiscales, les impôts, les forces de l'ordre, j'irai très gentiment. D'abord, je ferai ça, on fera ça collectivement et intelligemment. Je vais pas faire ça tout seul dans mon coin et aller voir les flics et leur dire je vous emmerde, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agira d'être capable, car collectivement, on fédère les gens qui disent on le mettra sur des autocollants sur la voiture, on le mettra à côté de notre permis de conduire. Quand je présente un flic, je dirai monsieur, je vous présente parce que j'ai pas envie d'aller au poste là, mais je ne reconnais pas votre autorité. Vous êtes dirigé par quelqu'un qui a suffisamment abîmé la démocratie pour faire en sorte que je ne reconnais pas votre autorité. Donc le plus dangereux, c'est Fillon. Pour moi.
Pour toi, donc si je dois résumer un peu tout ce que tu viens de dire en une phrase, ça veut dire s'il gagne, on se bat ?
Bien sûr.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ta connaissance, parce que pour être plus précis, ton entreprise travaille sur les réseaux numériques, tu en as une bonne expérience, je sais que tu es quelque chose de réfléchi, donc je vais préciser ma question, ça veut dire s'il gagne, on redéfinit les zones de combat ?
Définir zone de combat et on va les investir toutes. Ça veut dire qu'on va investir par le biais du numérique, parce que le numérique, il a ceci d'extraordinaire qu'il est à la fois une zone et un moyen. Donc on va évidemment investir cette zone comme moyen de la destitution. Et il est très probable, parce que il faut penser à ça, que l'autre zone, c'est la zone de la barricade. Certains l'investiront, crois-moi, non seulement je ne ferai pas partie de ceux qui cracheront dessus, qui diront quoi, il ne faut pas déstabiliser, bien entendu, qui déstabilise l'ordre ? Celui qui se présente et qui dirige l'État, alors qu'il est soupçonné par la justice de mon pays d'être un voyou. Je ne peux pas croire à la justice de mon pays si elle permet, et les États des institutions de mon pays, si elles permettent que dans ces conditions, à savoir avant même le vote, soupçonné par la justice, il puisse accéder à cette fonction. Donc, la lutte violente, mais mec, elle va émerger. C'est une évidence. Et non seulement je fais partie de ceux qui ne la condamneront pas, je fais partie de ceux qui la soutiendront politiquement et philosophiquement. Alors attention, on va pas buter des flics, hein. Personne ne parle de buter des flics. Je sais pas quelle forme ça prendra. Ce sera extrêmement compliqué, parce qu'il faudra aussi des modérateurs. Mais à un certain moment, peut-être ça prendra la forme des collectifs qui suivront l'écart des flics pour quand les flics essaieront d'alerter les gens ou d'arrêter les gens, diront « Mais non, attendez, nous on est les citoyens qui disons qu'on ne reconnaît plus votre État. » Vous voyez ?
Est-ce que ça n'existe pas, ça, déjà, aujourd'hui?
J'en sais rien. En tout cas, moi, je vais faire partie de ceux que ça va engager aux actions, si ça le fait. Si tu veux, jusqu'à présent, François Hollande, il était élu, j'ai voté pour lui. Jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas encore mis en examen dans ces genres de conditions. Donc, peut-être que ça existe déjà par les activistes, les zadistes, etc., qui sont des gens que je remercie de le faire. Et moi, je suis le cul dans mon fauteuil et je fais rien, bien entendu. Et là... Si tu veux, j'ai le sentiment que ça réveillera en moi cette fibre que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible.
Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que s'il y a un sentiment d'insatisfaction, un sentiment d'escroquerie, de vol, on trouvera la compétence, la capacité, les moyens, l'envie d'organiser nos minorités.
Mais je l'espère. Je l'espère. Alors, je l'espère, Ben, mais attention, parce que dans ce que tu dis, il y a deux choses. J'ai envie de, si tu veux, couper l'arbre sous le pied des choses qu'on pourrait nous dire. Parce que l'argument du vol de l'élection, attention, n'importe qui peut l'utiliser. Moi, je ne vous parle pas du vol d'une élection. Je veux que, collectivement, imaginons, on est dans la lutte, le tipi, où on va fumer tous le calumet de la paix, on a tous voté. Et on se fait une mini-assemblée à 100 représentant les pourcentages. Et moi, je dis, imaginons que je sois dedans, je dirais à ceux qui ont voté Fillon. Alors, les gens, calmement, et en termes de relations humaines, vous nous expliquez que vous êtes d'accord de vivre dans une société dans laquelle vous envoyez celui qui va nous diriger dans les conditions que je viens de rappeler. C'est-à-dire que, je rappelle, ce sont des faits, et ça met en cause l'autorité qu'on accorde au système de la justice et de l'exercice de la coercition de l'État. Hein, c'est pas des choses en l'air dont on parle. On parle pas de petites fleurs. On parle du fait que celui qui va impulser la dynamique de l'exercice de la coercition, parce que je rappelle que le vivre ensemble, c'est déléguer sa violence à la coercition possible de l'État. C'est ça, hein, vivre ensemble. Parce que sinon, moi, je me fais justice tout seul. Si je vis chacun pour soi. Hein, bon, je veux pas le débat de l'anarchie parce qu'il est compliqué. Quand même, vivre ensemble, c'est déléguer la coercition à l'État. Donc, je suis en train de dire que. J'espère que oui, se coaliseront des gens qui très calmement et très sérieusement, dans le tipi de la paix, diront « Vous ne parlez pas d'opinion politique, les amis, on parlera de politique après, il y a un préalable. » Et moi, en ce sens, je trouvais que c'était intéressant, c'était justifier les gens qui disaient « Il faut empêcher Fillon de parler de son programme. » Monsieur, vous n'avez pas à venir nous parler ce que vous feriez si vous êtes élu. Pour l'instant, vous êtes mis en examen par la justice dans les conditions que nous connaissons. À partir de là, vous répondez surtout... Dans ces conditions, il y a le fait qu'il ait dit qu'il arrêterait. Bon, ceci étant, Ben, j'ai pas envie qu'on détende toute ma colère et tout notre entretien sur le fait de savoir pourquoi Fillon est un bâtard. Je dis juste qu'effectivement, s'il venait à être élu, ça coalisera une forme de résistance très concrète. Ça, je le crois profondément.
Alors, pour synthétiser, justement, avec une petite pirouette de poète, est-ce que tu t'agrées à cette phrase ? Ailleurs, c'est ici et maintenant, et cette phrase, tu la connais parce qu'elle fait partie de mon vocabulaire. Aujourd'hui, face à la situation, elle a évolué. J'ai été piqué les mots, j'ai été récupéré les mots qu'on nous avait volés. Et la phrase complète maintenant dit « Ailleurs, c'est ici et maintenant, et c'est chez nous ».
Et c'est chez nous, mais bien sûr, évidemment. Sachant que après chacun portera ce qu'il veut derrière l'ouverture de cette dimension du chez nous, et je suis sûr que un très grand nombre de gens, quand tu leur parles calmement et qui ont une part d'humanité, d'intelligence, ils comprendront que chez nous c'est la planète. Et oh les gens, chez nous c'est la planète. Mais par contre, je fais pas partie de ceux qui crachent sur les gens qui disent c'est chez nous. Y compris, ce serait toute une discussion. Je vais assumer de dire un truc qui va être horrible et ça, et on me taperait dessus. Bon, c'est pas grave, tant pis, il faudrait discuter. Mais j'assume de dire que je pense qu'aujourd'hui et que les connaissances qu'on a, quand on vote Fillon, on est soit aveugle, soit partisan du système parce qu'on pense qu'on va en tirer ses miettes, soit un gros con. Alors qu'il est probable qu'un certain nombre de gens votent Le Pen honnêtement aveuglés et sous le coup de la colère, bien qu'évidemment, si je poursuis le discours, elle aussi, il faut qu'elle aille d'abord chez le juge. Donc tout ce que j'ai expliqué sur Fillon, ça va évidemment sur elle aussi. Hein. Mais attends, redis-moi quelle était ta dernière interrogation de départ. Pardon, Ben, je digré.
Non, mais c'est le but, justement. Le but, c'est de parler de nos états d'errance. La colère en est un. Il y a 10 000 chemins de l'errance. Aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit tous, hein, puisqu'aujourd'hui, on cherche à faire communion et on cherche les moyens de la communion. Si on en a bien, c'est l'état de l'errance. Donc, l'idée, elle est de t'interroger sur cet état d'errance.
Excuse-moi. Voilà. Tu m'interroges. Tout à fait, sur cette phrase-là, ailleurs, c'est être capable de se projeter ailleurs, c'est être ici et maintenant et y être chez nous. Oui, oui, tous les termes. Le chez nous, j'expliquais pourquoi. Oui, oui, je suis d'accord et moi je suis chez moi et la France c'est chez moi. C'est pour ça que le combat, c'est pas du tout je quitte la France, hein. Pas du tout. C'est ici, je suis chez moi et on est chez nous et je me battrai pour qu'on reconstruise les conditions d'un collectif et d'un autre collectif. Mais pourquoi, pour répondre aussi à... Enfin, pour te donner ma perception de cette phrase riche que tu donnes de « être ailleurs, c'est ici et maintenant », parce que potentiellement être ailleurs, c'est ce qui vient après, c'est aussi un après, parce que pour aller ailleurs, ben, c'est pas maintenant, il faut y aller après, mais cet après, ça se construit, les choses se construisent. Alors ok, j'admets que c'est trop court là pour qu'on aille bien au fond des choses et on pourra nous dire ouais, « ouais les gars, vous faites du verbiage, bon ».
Oui, bon, ben ça, tu sais, le poète, il a l'habitude, et puis je vais te dire, voilà, puisqu'on est dans les mots, il s'en branle, quoi, tu vois, le verbage, le machin. Si en France, on n'accepte plus de faire des ronds de jambes et de la littérature, alors on n'est plus en France.
Tout à fait. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'adore cette idée de l'ailleurs, c'est ici, maintenant, parce que moi, je le rattache à une phrase qui est importante pour moi aussi, c'est que l'ici et maintenant, ça se construit. Ici et maintenant, c'est pas donné, c'est jamais donné. Il y a des conditions, c'est pas non plus indépendant des conditions. Donc ni dans un sens des absolus relativistes, ni dans le sens des scientistes qui nous disent que tout est donné, non. Rien n'est donné, tout est construit. Et donc ici et maintenant, ça se construit. Ça se construit pourquoi? Et on en revient à ta question initiale, pour un ailleurs. Pour un ailleurs qui est autre, qui est chez nous, et qui est des choses dans lesquelles on est capable de se projeter. Ça se construit aussi pour un autre. L'autre qui est l'autre moi-même, à la façon de Camus, mais qui est aussi l'autre vrai autre. Celui qui vit en face de la Méditerranée. Et putain, quand j'entends effectivement Mélenchon, j'en ai rien à foutre de ceux qui disent qu'il est tribun et qu'il joue sur les larmes. Quand j'entends ce seul mec qui nous dit, non seulement je veux tout refonder parce que ça repose sur tout ce que j'ai expliqué avant, j'ai d'abord creusé les choses, ok, mais qui, en meeting politique, parce que c'est la mécanique, nous dit, putain les gens... Il faut faire une minute de silence, il y a 30 000, je suis devant le port de Marseille, en plus moi je suis un peu de là-bas, mais il y a 30 000 mecs qui sont morts là, à cause de nos politiques géopolitiques de merde. Et quand il dit, je refuse de répondre à la question de l'immigration par vous virer des étrangers ou pas, il dit, je refuse de répondre à ça, tant que vous ne me posez pas la vraie question de d'où ils viennent ces gens. D'où ils viennent ces gens? Pourquoi ils partent? Ils partent parce qu'il y a changement climatique, qu'il y a n'importe quoi. Ils partent parce qu'on exploite leurs ressources. Ils partent parce qu'on soutient les autocraties. Ils partent parce qu'on vend des armes. Ils partent parce qu'on a créé, etc. Et donc, oui, il y a enfin une offre politique qui dit « Mais arrêtez de nous prendre pour des crétins. » Oui, je veux bien dire « Ok, après, comment je ferai pour l'immigration des gens qui sont là ?» Mais d'abord, pourquoi ils partent, quoi?
Et où ils arrivent?
Et donc, quand il dit « Il y a 30 000 mecs qui sont morts là, en se noyant dans la Méditerranée, putain, ben oui, moi je suis désolé, il a raison de le dire, on peut dire, il joue sur la fibre, oui, peut-être, mais c'est vrai, il y a 30 000 gens qui sont morts.
Je crois qu'on va arrêter la conversation là, parce qu'on pourra pas aller plus loin dans ton discours sur l'humanité, et je trouve cette conclusion très belle, oui, il y a 30 000 gens qui sont morts dans la mer Méditerranée. Donc la mer Méditerranée, à l'échelle de la planète, c'est notre baignoire. Donc, on a noyé 30 000 becs dans notre baignoire. Voilà.
Ben oui. Il y a un tout petit peu de temps que ça cesse.
Je te remercie, Jules.
Merci à toi, Ben.
Porte-toi bien, tiens-toi mal.
Ouais, à bientôt.
La régie Zabaline.
Là, comment?
La régie Zabaline.
C'est la régie Zabaline.
Merci.